Gloire à Dieu, nous sommes heureux de venir à ce rendez-vous que le Seigneur nous fixe chaque mardi à 18h, puisqu'il y a la louange pour sa gloire avant et puis pour l'étude biblique après. C'est très important que nous connaissions sa parole pour pouvoir marcher selon ses voies. Beaucoup de nos prédécesseurs, certains ont reçu des grands dons, des grandes charges avec puissance. Beaucoup de ses prédécesseurs sont tombés parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont suivi un élan de force, des idées comme ça qui venaient, au lieu de suivre ce qui était écrit. Et quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser plus tard, un bon conseil, c'est d'imiter ce qui est écrit, de rester sur ça. Le frère Paul dit ça dans 1 Corinthiens 4, 6. Il dit que nous avons voulu, par notre façon de nous comporter, moi et Apollos, un autre serviteur de Dieu, nous avons voulu vous montrer qu'il fallait pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un de sorte qu'on commence à tolérer tous les écarts que la personne fait par rapport à la parole, parce qu'on se dit, mais si Dieu n'était pas avec lui, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Quelle que soit la manière dont Dieu peut utiliser quelqu'un, nous ne devons jamais suivre ce qu'il nous dira qui n'est pas dans la parole. Il faut rester sur la parole. Bien de serviteurs de Dieu véritables que Dieu a utilisés à un moment donné sont tombés parce qu'ils commençaient à suivre leurs idées qui semblaient aussi fonctionner. Il y a quelqu'un, je suivais un extrait du discours, d'un des discours d'un serviteur de Dieu qui a été utilisé puissamment au Nigeria dans les années 70 jusqu'à 90 même. Et vraiment, il a été utilisé puissamment. Et à un moment donné, il dit, par rapport à une confrontation avec des sorciers qui devaient faire une réunion dans leur ville, lui, il avait dit que ça n'allait pas avoir lieu et que Dieu n'a même pas à s'occuper de ça. Lui-même, il est là pour les bloquer. Vous voyez ? Cet homme-là était vraiment oint par Dieu. Mais cette phrase-là est un écart. Parce qu'il est clair, comme le frère Paul le dit, qu'il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens 4, 7. Peu importe ce qu'on peut faire, ça vient de Dieu. Même ce qu'on a pu faire autrefois sans lui, par l'intelligence vient de Dieu. Donc, dire que Dieu reste tranquille, moi-même je m'occupe d'eux. Après, ça a marché, la réunion des sorciers n'a pas eu lieu. Ce qu'il avait proclamé s'est accompli. Mais la phrase de dire que Dieu ne fasse rien, lui-même il peut s'en charger, c'est une erreur. Aucun humain ne peut se battre contre le diable. Fût-il un chrétien, nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu. Toujours. Vous voyez, c'est des petits écarts comme ça qui font que, petit à petit, quand vous suivez maintenant le parcours de cet homme, vous voyez que vers la fin, il y a une certaine déviation. Mais ça commence par des petits écarts par rapport à la parole. Nous faisons ces études bibliques pour donner à chacun d'aimer la parole de Dieu et de se fonder sur elle pour tout. Même quand tout semblera nous obéir, n'oublions pas, c'est la parole qui doit être le socle de tout. Voilà, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons les psaumes, on en est au psaume 138, puisque le psaume 137 nous a pris beaucoup de temps. Effectivement, c'est un psaume clé. Voilà. Et tout à l'heure, on va lire aussi un autre psaume clé, c'est le psaume 139. Mais nous commençons déjà par le psaume 138 pour contempler la fidélité de Dieu et la louange qui lui est due à cause de cela.
Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur, Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains.
Amen. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est une belle conclusion qui nous ramène à ce qu'on a dit un peu avant là, responsabiliser Dieu pour tout, dire, mais Seigneur, je suis ton œuvre. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. C'est ton Église. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Mes enfants, c'est toi qui les as donnés. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Ça finit par dire, mais c'est Dieu seul qui peut tout faire puisque tout vient de lui. C'est très, très important de se rappeler tout ça. De se rappeler. Et ce psaume célèbre la fidélité de Dieu. Je célèbre ton nom au verset 2 à cause de ta bonté et de ta fidélité. La fidélité, c'est le fait que quelqu'un reste constant et ne manque pas à ses engagements. C'est ça la fidélité. Il s'est engagé dans une voie, il s'est engagé avec quelqu'un, il demeure ferme dans cet engagement-là. Et si aujourd'hui, bien-aimé, nous croyons, quelque part, c'est lié à la fidélité de Dieu, parce que nous savons que lui, il va demeurer ferme à ses engagements. C'est ce qui nous permet, nous qui sommes instables, de nous maintenir dans la foi. Parce que si lui, il était instable comme nous, on perdrait notre foi complètement. Mais c'est parce que lui, il est stable, il est fidèle, que nous pouvons, nous, dans nos hésitations, nous fonder toujours sur lui pour dire, mais lui, comme lui, il ne bouge pas, je peux revenir, il sera toujours là. Voilà. Je peux revenir, il va faire ce que lui, il a promis. La fidélité de Dieu, c'est ça qui justifie notre foi. On sait qu'il respectera ses engagements. Il a dit, il fera. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc, lui, il accomplit toujours ce qu'il promet. Du coup, les gens qui ont vu cela, les serviteurs de Dieu qui ont vu cela, l'ont craint davantage. Pour dire, ah, vraiment, on peut vraiment se reposer sur lui, on peut le craindre parce qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous pouvons être sûrs qu'il va accomplir. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Voilà. Et vous savez, il y a des jours où même on ne l'a pas invoqué, mais de lui-même il agit à cause de sa fidélité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui fait que le juste le craint. Malheureusement, il y a des gens qui ne voient pas l'action de Dieu tant qu'ils n'ont pas demandé ou bien crié à lui. Et plein de choses qu'il fait selon sa fidélité passent inaperçues parce que les gens, comme ils n'ont pas prié, comme ils n'ont pas demandé, mais Dieu a agi de lui-même, les gens prennent ça naturellement, c'est naturel, c'est la vie, c'est comme ça. Non. Beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies, c'est sa grâce. Mais on ne s'en rappelle pas, on ne s'en préoccupe même pas, puisque on n'a pas demandé clairement. Mais le Saint-Esprit parle à ceux qui sont humbles pour voir comme là, mais là, tu étais fini, tu étais cuit. Mais regarde comment il t'a sorti d'affaire. Et si tu te dis, mais c'est vrai, j'ai même pas prié. C'est ça la fidélité de Dieu. Lui s'est engagé. Il est écrit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu deviendrait infidèle. Lui demeure fidèle. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, même quand nous, on est instable, on est infidèle, lui respecte ses engagements. Du coup, notre foi a un socle solide. Parce que ça se repose sur quelqu'un qui respecte toujours ses engagements. Et du coup, ça pousse à la louange. Parce que qui dans cet univers respecte ses engagements? Qui? Même la nature est instable. Même la nature est instable. Beaucoup ont été surpris par des torrents de boue. Il y a une dame qui est morte à Rouen, dans les inondations. Nous qui étions en chemin, nous avions cru que c'était une simple pluie. Mais on arrive à Rouen, on nous dit, mais il y a trop de dégâts ici, il y a même des torrents qui se sont formés. Et quelqu'un est mort. On se dit, mais tiens, même la nature n'est pas stable. Dieu seul est stable, fidèle. On peut compter sur lui. C'est extraordinaire, c'est bien aimé cette qualité-là. C'est extraordinaire. On ne s'en rend pas compte, justement, puisque tant qu'on n'a pas prié pour quelque chose, on ne voit pas cette fidélité-là en action. Et ce n'est pas bon. On devrait voir cette fidélité-là en action. Et c'est ce qui permet de passer maintenant à la louange. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Voilà, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Et une fois de plus au verset 7, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » On peut être sûr que au milieu de la détresse, comme je l'ai dit précédemment, il y a des moments où on est chaos. On se dit « c'est fini pour moi ». Et puis, brusquement, la vie revenait. Brutalement, l'espoir revient, le goût à la vie revient, et les choses se mettent en place, on se dit, mais c'était fini. Mais Dieu est fidèle. Il dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Mais malheureusement, comme il est écrit, il reconnaît l'orgueilleux, hein, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Normalement, quand c'est comme ça, on est censé le louer, le glorifier. Et quand on ne le fait pas, quelle est la conséquence? Quand on ne remarque pas la main de Dieu, la conséquence est que notre orgueil ne fait que grandir. On se croit fort, on s'en est sorti tout seul. Et c'est ça le danger. C'est pourquoi on parle des orgueilleux, parce que les humbles reconnaissent la main de Dieu, reconnaissent les faveurs de Dieu et savent le louer par conséquent. Mais les orgueilleux ne voient pas et donc du coup ils ne louent pas. Ils sont fermés, ils sont froids parce qu'ils ne voient pas, ils ne réalisent pas la main de Dieu dans leur vie et autour d'eux. Et verset 8, l'Éternel agira en ma faveur. On peut être sûr de ça. Il agira en notre faveur. Il ne faut pas s'inquiéter. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Voilà, nous continuons avec le psaume 139. Un psaume spécial, merveilleux, extraordinaire et un pilier dans la connaissance des Écritures.
Psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
Amen. Voilà une phrase hyper importante. Parce que la description faite de Dieu, c'est compliqué. Tu me sondes, tu me connais. Bien-aimé, déjà, comment on peut sonder et connaître 6 milliards d'humains? En même temps, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque humain. on est environ 6 milliards. Rien que ça. Vous ne voyez pas que c'est trop. Parce que moi, à chaque fois que j'y pense, je dis, mais il est comment Dieu? Et je comprends quand David dit, mais il est dépassé. Quand il dit, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Il ne le dit pas que pour lui. Il le dit pour tout humain. Parce que la phrase, ces phrases-là, on les retrouve quand Dieu menace Sankérib. Il dit à Sankérib, je sais quand tu entres et quand tu sors. Quand tu t'assieds, je sais. Quand il le menace, il dit, mais je te maîtrise, puisque je sais quand tu entres, quand tu sors, quand tu t'assieds, je sais. Donc, ça veut dire que Dieu le sait pour tout le monde. Mais vous voyez pourquoi les connaisseurs de la Bible, après, ils n'ont peur de personne, quoi. Parce qu'ils savent que Dieu maîtrise tout individu. Même quand quelqu'un semble costaud, vous savez, il n'y a rien que l'histoire du nombre d'années, quoi. Vous savez, les gens qui dirigent les pays où il n'y a pas de vraie démocratie, hein, là où il y a des dictateurs, les dictateurs ont l'habitude de rigoler quand un président français ou bien un président américain, il gagne les élections et il commence à les menacer, à les critiquer. Eux, ils se disent, bon, dans 5 ans, il y aura des élections, il partira, quoi. Voilà. Rien que l'histoire des années, ça suffit à montrer la supériorité de Dieu. Dieu sait que dans 5 ans, il n'y aura plus Macron comme président. Donc, il se moque de lui. C'est rien être président face à Dieu. Il sait que dans 4 ans, c'est fini. Dans 5 ans, c'est fini. Il est vraiment grand puisqu'il peut savoir exactement ce que fait chaque humain. On est 6 milliards. Quel est cet ordinateur qui peut savoir les choses comme ça en même temps? Ça, c'est encore plus grave. Ce n'est pas qu'il peut le savoir en appuyant sur un bouton. Non, il le sait comme ça en même temps. Et là, David dit, mais non, mais là, ça me dépasse. Rien que ça. Et il n'y a pas que ça. Même les pensées, il connaît les pensées. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Il connaît toutes les voies. La parole n'est pas sur ma bouche, ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà un homme honnête, un homme humble. Il reconnaît qu'il ne peut pas saisir Dieu. Parce que c'est complexe. Comment il peut savoir tout ça? Parce que les autres humains, qu'est-ce qu'ils se disent? Dans ce cas, tout est déjà fait, tout est prédestiné. On est des machines, c'est programmé ainsi. Ah non, puisque d'autres textes montrent que c'est pas, il n'y a pas de programmation. Mais c'est simplement que nous, on n'arrive pas à comprendre comment lui connaît tout. Voilà, on se dit, mais comment il peut savoir toi? Ben dans ce cas, tout est programmé. Voilà, c'est dû au fait qu'on veut le saisir. Mais mon ami David lui dit, ah, moi, je renonce à te saisir. Bien, mais moi aussi, j'ai renoncé à saisir Dieu. Il est trop complexe. Il est trop grand. Parce que le seul exemple que j'ai donné, le fait qu'il sache ce que 6 milliards de personnes font en même temps, et ce qu'il pense aussi, il le sait en même temps. Mais pourquoi je dis toujours aux bien-aimés qui discutent avec le musulman, ne cherchez pas à expliquer Dieu. Parce que vous allez vous embrouiller. Dites-leur, nous acceptons Dieu tel qu'il s'est présenté à nous. Mais on ne peut pas vous expliquer Dieu. Ah oui, mais comment se fait-il que, voilà, il priait, mais alors qu'il est Dieu, il priait qui alors? Mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Nous, on accepte parce que quand il dit qu'il est Dieu, il fait ses preuves. Quand il dit qu'il est homme, il fait aussi ses preuves, il dort comme un homme. Il mange comme un homme. Et quand il dit qu'il est fils de Dieu, il montre aussi qu'il est fils de Dieu. Donc du moment que... C'est comme si quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui a 25 ans, qui vous dit, je suis médecin, je suis pharmacien, je suis ingénieur en aéronautique, je suis footballeur. Vous dites, ah mais non, c'est impossible. À 25 ans, il est tout ça. Mais mon ami, si lui, tu l'amènes sur un terrain de football, il gagne. Tu l'amènes en médecine, il te soigne quelqu'un, il te montre son diplôme. Tu l'amènes en pharmacie, il te montre son diplôme. Tu l'amènes en aéronautique, il te montre son diplôme et il travaille. Le reste, là, qu'il ait 25 ans, c'est un mystère pour toi. Mais lui, il a prouvé qu'il est ingénieur, il prouve qu'il est médecin, il prouve qu'il est avocat. Du moment qu'il prouve ça, quel est ton problème? Donc, Jésus prouve tout cela, qu'il est homme, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Il le prouve. Après que l'on comprenne, moi j'ai dit, mais j'ai dit une fois à un frère, j'ai dit, mais pourquoi ça vous est étonnant que ils soient en train de parler alors qu'il est lui-même Dieu, il parle encore à Dieu. Mais comment, pourquoi vous ne vous étonnez pas que l'on dise que nous avons tous Dieu en nous alors? Comment Dieu peut être dans des millions de personnes? Parce que quand on dit que Dieu est dans la diaconesse Ginette, mais c'est tout Dieu qui est dedans. Ce n'est pas une partie, un doigt de Dieu. D'ailleurs, voilà, ça c'était des anthropomorphismes. Mais comme quand on dit le doigt de Dieu, mais bon, Dieu est esprit, il n'est pas un être humain. Ce n'est pas un Dieu à moitié, puisqu'il ne se divise pas en millions pour être dans chacun d'entre nous. Donc quand on dit que Dieu est dans l'ancien, il est totalement dans lui. Mais comment se fait-il qu'il peut être totalement dans moi, totalement dans quelqu'un d'autre, totalement dans... et être encore en face de nous? Ah oui, les amis musulmans, il y a beaucoup de difficultés là. C'est ça. C'est comme ça. Il est capable. C'est pourquoi notre frère David dit, lui, il est dépassé. On ne peut pas maîtriser Dieu. C'est ainsi que les païens aussi, les athées, en voulant maîtriser Dieu, ils n'ont pas pu, ils ont décrété qu'il n'existait pas. Parce que s'il existe, comment se fait-il qu'il y a toutes ces souffrances-là? Pourquoi il ne fait rien? Tel enfant a été, on lui a coupé la tête, on a violé un tel, on a fait ceci. Mais en raisonnant pour saisir Dieu, ça ne peut pas marcher. C'est un rêve d'orgueilleux, parce que normalement, l'être humain, quand il regarde les astres, les étoiles, il devrait tout simplement se taire et s'occuper de cultiver la terre, de manger les pommes de terre, c'est tout. Parce que c'est trop grand. C'est trop grand. Quand on dit qu'il y a des milliards d'étoiles, et que pour aller à la deuxième, parce que nous, on ne connaît que la première qui est en face de nous, là, le soleil. Mais pour aller à la deuxième, il te faut 4000 ans. Et quand je dis 4000 ans, c'est avec une, c'est pas la, on n'a pas encore de vitesse de ce genre-là. On fait gentil pour dire qu'il faut 4000 ans pour aller là-bas. Donc on suppose qu'on va évoluer, on va avoir de plus grandes vitesses dans nos fusées. Maintenant, il faut 4000 ans pour aller à la deuxième étoile. Bon, on nous dit qu'il y en a 100 milliards dans notre galaxie. Maintenant, il y a combien de galaxies? 1000 milliards. Bon, on va faire. Donc, tu prends tes stylos, tu mets dans tes poches, tu prends. Tu te fais du chocolat chaud, tu bois, tu vas faire la sieste. Parce que là, ça nous dépasse. Parce que le monsieur dit une science, une connaissance aussi merveilleuse. Comment il peut savoir, nous tous, quand on s'assoit, on mange? Il sait tout ça. David, lui, il est simple. Il dit, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Mais c'est extraordinaire, voilà. Il se contente d'avouer que c'est extraordinaire, mais il ne cherche pas à saisir. Parce que ta tête va exploser. J'ai déjà entendu un savant américain dans l'astrophysique. Il donnait les distances de l'univers qu'il y a dans l'univers. Et lui-même, il a dit aux journalistes, ces distances-là, elles sont tellement grandes que notre cerveau ne les accepte pas. Malheureusement, c'est ça qu'on trouve par nos calculs. Mais c'est tellement grand que notre cerveau n'est pas capable de les assimiler. C'est trop. Comme je vous ai dit, comment pour aller à la prochaine étoile, il faut 4000 ans, mais sachant qu'il y en a 100 milliards. Bon, vous irez à la troisième après combien d'années? Vous irez à la quatrième après combien d'années? Après 100 000 ans. Donc à quoi ça sert de vouloir explorer tout ça? Laissons tomber, faisons une omelette et puis c'est tout. On continue la vie, quoi. C'est ça, bien-aimé. David, lui, il a renoncé, il a dit, ah non, c'est bon. Ça me dépasse. Et nous continuons, verset 7, il dit, oui.
Il y a une question internet, donc l'internaute veut savoir, est-ce que le diable peut connaître les pensées et l'avenir d'un enfant de Dieu?
Il ne peut pas connaître avec exactitude l'avenir ni les pensées. Il peut, comme nous aussi, avec une certaine expérience, sentir les choses. Voilà. Donc, avec une certaine expérience, les gens savaient déjà qu'à l'âge de 15 ans, 14 ans, on appelait Maradona l'enfant en or, Pibe de l'or. Donc, c'était l'enfant en or, alors qu'il a 15 ans, 14 ans. Les experts du football, quand ils le voyaient, ils disaient, c'est un enfant en or. Il est trop fort. Et on a vu ce qu'il est devenu. Voilà, c'est l'expérience, c'est la connaissance de l'être humain. Et voilà, on arrive à faire des relations entre les choses qu'on voit paraître. Et le diable, pareil, dans le monde invisible, nous, puisque nous, il faut savoir qu'on a un rayonnement dans le monde invisible. Et le diable peut voir ce rayonnement-là et supposer à peu près ce que va être cette personne. Mais ce n'est pas une connaissance comme s'il avait vu l'avenir. Non, il est incapable de connaître l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. D'ailleurs, une des qualités que Dieu utilise pour marquer la différence entre lui et toute autre personne, que ce soit humain ou démon, c'est la connaissance de l'avenir. Il est le seul à connaître l'avenir. Après, le diable peut inventer un avenir. Donc, il te prophétise un avenir que lui-même, ça s'appelle prophétie auto-réalisée. Il te prophétise un accident et lui-même, il crée cet accident dans la suite. Voilà. Donc, c'est lui qui a créé cet avenir-là, qu'il t'a prophétisé. Ce n'est pas qu'il a vu. Il a plutôt fabriqué. Voilà. Mais il ne peut pas connaître l'avenir. Et les pensées, il ne peut pas non plus les connaître avec exactitude. Mais toutefois, puisque le domaine du mal, c'est son domaine, je suppose que les pensées, les mauvaises pensées, eh ben, je suppose qu'il doit les sentir puisque ça doit sortir une odeur qui est la sienne. Oui, non, c'est bon, on continue. Verset 7.
Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Voilà, donc avant de commenter le 14, nous voyons la description qui est donnée de Dieu lui-même. On dit que ben, il voit partout, à tel point que où qu'on aille, il va nous voir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Même dans le séjour de mort, tu es là. C'est comme, donc c'est dans d'autres versets, c'est dit qu'il remplit l'univers. C'est comme s'il a des yeux partout. Il est là partout. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Vous voyez, bien-aimé, les Écritures ne cherchent pas à prouver l'existence de Dieu. Elles considèrent ça comme quelque chose d'évident. Voilà. Déjà, commencer à polémiquer là-dessus montre qu'on a loupé quelque chose. Voilà. Donc, il y a eu une forme d'orgueil, puisque il y a un lien entre nous et Dieu. Païen ou pas, l'être humain a un lien avec Dieu. Vous savez, comment comprendre ça? Vous voyez, avant qu'un enfant naisse, il y avait un lien physique avec sa mère, un cordon ombilical. Il y avait vraiment un lien physique. Et quand l'enfant naît, ce lien continue alors qu'il n'y a plus le lien physique. On peut le démontrer par le fait que la montée de lait maternel se fait au même moment que le bébé a faim. Pourtant, là, ils n'ont plus un cordon qui les relie. Je pense que l'histoire du cordon, on en parle aussi dans le livre des Proverbes. On parle du cordon d'argent qui, lorsqu'il est coupé, on meurt. Donc, je crois qu'il doit y avoir un cordon qui doit relier tout humain à Dieu. C'est ce qui explique que l'homme puisse vivre. Et le jour où c'est coupé, l'homme, son côté physique meurt. Voilà. Donc, c'est ça la... Et c'est pourquoi que quelqu'un dise que Dieu n'existe pas est une forme de mauvaise foi. C'est un déni de quelque chose que la personne sent elle-même. En réalité, Dieu nous embête parce qu'on veut faire le péché et que lui dit que ce n'est pas bon. Alors on décrète qu'il n'existe pas. C'est ça la réalité. Mais que l'homme, au fond de lui, dise que Dieu n'existe pas, c'est faux. On a vu ça avec Voltaire. Quand il a commencé à souffrir, il passait par des phases de croyance que Dieu existait pour lui demander son aide. Et quand la souffrance continuait, il changeait, il disait, mais tu n'existes pas. C'est comme s'il voulait se battre avec Dieu. En réalité, les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont dans une bagarre avec Dieu en réalité. Et leur forme de piquer Dieu, c'est de dire qu'il n'existe pas. Mais c'est juste qu'ils ne veulent pas l'accepter comme Seigneur. Et vous voyez, la Bible se contente toujours de décrire directement Dieu, pas de vouloir prouver qu'il existe. La Bible considère ça comme quelque chose que chacun devrait sentir, comme le bébé et la maman. Ils se sentent les deux, mais on devrait nous tous sentir Dieu aussi comme ça. Et d'ailleurs, le Seigneur dit ça dans Ésaïe au chapitre 1er, l'âne, même l'âne connaît son maître. Même le bœuf, un animal, connaît son maître, il sait différencier. Mais il n'y a que l'homme qui ne veut pas reconnaître son maître. C'est ça, la réalité. Oui.
Que signifie élever la coupe du salut? C'est la question d'un internaute.
Donc, ça veut dire célébrer son salut. Ça veut dire célébrer. La coupe, c'est dans les fêtes. Voilà. Donc, et là, c'est célébrer son salut.
Donc, une autre, je crois que s'inquiète, il dit, le diable, ne connaissant pas l'avenir, peut créer une prophétie ou un événement afin de glorifier Dieu?
Non, pas afin de se glorifier lui-même. Tu vas voir un voyant, le voyant te dit, je vois un accident dans 6 mois. En réalité, c'est faux. En réalité, il le dit pour créer, pour se donner une certaine importance qu'il voit dans ta vie. Maintenant, le fait que toi, tu es parti consulter un voyant, tu as autorisé le diable à agir dans ta vie. Donc, du coup, dans 6 mois, il va utiliser ce droit-là que tu lui as donné en venant dans cette maison de voyance pour te créer un vrai accident. Et toi, quand tu vas subir cet accident, tu vas dire, ah mais tiens, la prophétie du voyant s'est accomplie. Donc, c'est un vrai voyant. Non, c'est lui-même qui a créé cet accident. Ok, nous continuons. Oui.
Comment le Saint-Esprit agit ici dans l'ancien?
Non, mais là, tu bouges le micro. Faut garder devant la bouche.
Comment le Saint-Esprit agit ici dans l'Ancien Testament et comment... Le peuple d'Israël, il faisait...
Tu bouges le micro, il faut le garder en face.
Oui. Il faisait comment pour résister au péché, vu qu'ils n'avaient pas totalement le Saint-Esprit, les gens de l'Ancien Testament?
Oui, il c'était par l'effort humain. Hein. L'effort humain et la parole de Dieu, une certaine aide de Dieu, mais il n'y avait pas l'habitation du Saint-Esprit en eux pour leur donner une victoire totale. Mais c'était l'effort humain qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des païens qui arrivent à mener une vie en payant les impôts, en ne volant rien, en faisant les choses plus ou moins correctement, même dans d'autres religions. Hein. Voilà. L'effort humain, ça existe. Nous continuons. Oui ?
Question Internet. Un ami me disait, j'ai demandé une chose spécifique à Dieu à un moment de ma vie, mais je ne l'ai pas eu. Depuis ce jour, je ne crois plus en lui. Que dire à cette personne pour qu'il revienne à Dieu?
Il s'est trompé de calcul. Dieu n'a pas besoin de lui. Parce que le problème, c'est que nous, la manière dont on présente Dieu aux gens parfois, ça donne l'impression que Dieu cherche des clients. Non, non, on avertit plutôt que, comme Jésus dit dans Jean 8, 23, est-ce qu'on peut lire ça? C'est très important aussi, nous aussi, la manière dont on parle de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un humain, il ne cherche pas de clients. Donc si quelqu'un veut se perdre, qu'il se perde. Mais Dieu, lui, il veut plutôt te sauver. Voilà, Jean 8, 23.
Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Voilà. Lui, il te dit, tu as une maladie qui te tue. Ça s'appelle le péché et qui finira mal en enfer. Moi, je suis venu te sauver. Mais lui, il ne gagne rien. Il faut que ça soit clair auprès des gens. Moi, quand quelqu'un dit comme ça, moi, je dis, mais tu t'es trompé, tu as fait un mauvais calcul. C'est toi qui as besoin de Dieu, lui n'a pas besoin de toi. Le jour où tu auras besoin de lui, ben, reviens. Voilà. Il sera toujours là, les bras ouverts à t'attendre. Mais là, ce que Dieu veut, il a envoyé son fils, non pas pour nous donner les choses que l'on veut, comme des enfants gâtés, c'est pour nous purifier de nos péchés, nous pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Saisis d'abord ça et le reste viendra. Voilà. Oui.
Ils disent une mauvaise prophétie, après ils utilisent. Mais il y a des personnes, en fait, qui vont voir des voyants, qui vont voir, par exemple, des marabouts, ou bien des personnes qui font certaines pratiques avec des coquillages, et où le voyant lui dit, avant même que lui-même il parle. Donc, ils détiennent ça de quoi, alors, s'ils ne connaissent pas la pensée, ou bien le...
Ils détiennent ça des micros et des caméras. Hein. Donc, les démons peuvent se déplacer très vite et entendre nos conversations. Voilà. Ils ont un réseau. On retrouve même ça dans les milieux des avocats. Tu prends un avocat, tu crois qu'ils vont se battre avec l'autre du camp adverse. Mais or, eux, ils se voient quelque part, ils savent déjà comment ils vont régler votre affaire. Voilà, donc c'est ça, les démons, ils ont des réseaux. Il y a quelques démons qui sont dans votre maison, ils ont entendu votre conversation. Alors, il faut que j'aille voir Maître Cador, je ne sais pas qui. Et donc, ils vont vite dire à d'autres, qui vont dire, mais il y a tel qui va venir là, il est dans une famille de 5 personnes. Et donc, quand toi, tu viens, le voyant est déjà au courant par les esprits, il t'épate. Non, il connaît rien du tout. C'est un réseau de télécommunications.
Question. La Bible dit que voilà que Dieu veut que toute personne soit sauvée, parvienne à la connaissance de la vérité. Et par exemple, si on a affaire maintenant à un voyant, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir accès à un voyant sans que, comment dire, sans qu'on puisse, sans que lui puisse nous parler de son métier, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut lui parler, est-ce qu'on peut faire, par exemple, si je prends un exemple, si le voyant, par exemple, il tient un magasin et toi, tu vas acheter des choses là-bas, est-ce que c'est mauvais?
Tu es au courant que c'est un voyant?
Oui.
Ah, moi, je préférais ne pas acheter chez un voyant. Hein.
Oui, non, mais quand...
C'est sûr que c'est travaillé. Hein.
Bah, à quel moment on va l'évangéliser alors?
Mais ce n'est pas en achetant. Tu peux venir lui évangélisant, lui parlant, ce n'est pas en achetant ces choses.
Oui, en fait, parce que j'ai repris cet exemple-là, c'était juste pour amener justement à dire, est-ce qu'effectivement on peut avoir accès, par exemple, à quelqu'un, on sait que c'est un voyant, et tu es quand même obligé de rentrer là où il est.
On peut l'attendre en chemin, et puis voilà. Mais on ne va pas entrer dans son bureau sauf si c'est Dieu qui nous envoie. Mais... On peut les rencontrer ailleurs. Hein. On peut les rencontrer ailleurs. Et puis Dieu peut permettre d'autres circonstances hein, où il crée cette rencontre-là. Mais on n'a pas à se compromettre pour évangéliser.
D'accord, ok.
Voilà. Verset 14.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand.
Voilà, peut-être que ça... Oui, on finit peut-être le verset 18 et puis on s'arrête.
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Trop grand, je m'éveille et je suis encore avec toi. Ça veut dire quoi? Je m'éveille et tu es toujours à côté. Oh, ça me donne le vertige, quoi. Il est toujours là. Comme on a dit, mais où trouver quelqu'un qui est toujours là? Il y a un chant qui dit, chaque jour, le matin et le soir, je t'appelle, tu es là. Il est toujours là. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et David est en train de nous expliquer, parce qu'il dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Il parle du corps. Il dit, tu nous as tissés. Et vous voyez, quand les gens ont découvert les cellules, ils ont vu que les cellules étaient tissées. C'est pourquoi un ensemble de cellules, ça s'appelle quoi en biologie? Ça s'appelle un tissu. Et ils se sont rendus compte, mais les cellules sont reliées comme si c'était des tissus. Comme si c'était un tissu. Vous savez, quand tu regardes, quand les gens tricotent, ils voient que mais les cellules sont reliées, c'est un tissu. Ils ont appelé ça tissu. Et c'est ce que la Bible dit, c'est toi qui m'as tissé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de fort dans ce psaume? C'est que non seulement il nous a créés comme objet physique, il nous a créés dans le temps. C'est-à-dire que même nos jours, ça nous dépasse. Ça veut dire, pour Dieu, tu n'es pas un objet à part comme ça, un diamant. Non, tu es un ensemble composé d'un objet et d'une vie avec un avenir. Tout ça, c'est ça que lui, il a créé. C'est ce que, au fait, c'est ce que le monsieur, le David, il nous fait comprendre. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc Dieu n'a pas créé juste un objet, il a créé un système au fait. Tu es un système, je suis un système. Ça montre que si maintenant tu es son ami, si tu es avec lui, donc tout le système est gardé. En fait, t'es pas que toi. Ce sont tes jours. Ce sont maintenant gardés. Tout ça est géré. C'est extraordinaire. C'est pourquoi David dit, mais ça me dépasse. Tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Non seulement tu as créé l'être physique, mais tu as créé ces jours aussi. C'est pourquoi moi j'aime le chant qui dit, ça dit quoi en quelque sorte, ça dit que chaque jour que nous vivons, au fait, est une création de Dieu, au fait. Demain, c'est comme si Dieu va créer ça pour nous encore. Ce n'est pas qu'il nous a créé juste un corps, mais même nos actions ont été créées. Et c'est ce que dit aussi Éphésiens 2, 8 à 10. Il dit que nous sommes l'ouvrage de Jésus, créé pour accomplir des œuvres qui ont été préparées d'avance. Au fait, la Bible va loin, va plus loin que la science. La science peut encore admettre que Dieu nous ait créés, Mais de là à rajouter que même le système que nous formons depuis la naissance jusqu'à la mort, tout ce système-là, c'est ça que... Au fait, c'est ce que David appelle créer un homme. C'est le créer ainsi que ses actes, ses actions. Le psaume 139 va à ce niveau-là. Vous voyez, c'est trop fort. Hein. C'est plus fort que la science, de loin. La science s'arrête à dire, ben, admettons, hein, les bons scientifiques peuvent encore dire c'est Dieu qui t'a créé, mais en tant qu'objet. Mais les Écritures vont plus loin. Il a créé ton avenir. Il a créé ta vie, tes actions, tes voyages. Il a tout créé. Donc, comme ça peut créer de la tranquillité pour l'enfant de Dieu de savoir ça finalement. Oh, bon, tout est sous contrôle. Oh, c'est bon. Je ne m'inquiète plus. Parce que le diable est là, il est là à te souffler dans l'oreille. Il ne reste plus que 10 euros dans ton compte. Ça, c'est sa spécialité. Tu n'as plus rien demain. Mais toi, tu dois répondre, mais demain est un jour que Dieu va créer en ma faveur. Vous savez, nous avons tout dans les Écritures. Ce n'est pas pour rien qu'on nous empêche de lire la Bible. Ce n'est pas pour rien que tous les systèmes de faux serviteurs tournent autour de leurs exploits, de leurs discours. Aujourd'hui, les gens mettent les phrases des serviteurs au lieu de mettre des versets bibliques. On met plutôt des phrases, telle phrase signée apôtre un tel. Tout ça, c'est pour nous distraire. Parce que le diable sait que si un chrétien commence à vivre en fonction de ce qui est écrit, ben, il devient super fort. Et quand on va lui souffler, mais c'est ton dernier jour, tu n'as plus que 15 euros. Oh, le diable. Dieu va me créer un jour nouveau avec tout ce qu'il faut pour que je mange. Au fait, il ne m'a pas créé seulement moi, il a créé mes jours aussi. Parce que quand on dit mes jours, ce n'est pas seulement le nombre de jours que tu vas faire. Ce que tu vas faire dans le jour, c'est une création de Dieu. C'est tout ça, c'est ça que tu y es, au fait. D'une manière spirituelle, tu y es tout ça. Tu n'es pas qu'un objet. C'est extraordinaire. Voilà, nous clôturons de 19 à la fin. On clôture et puis on laisse la place à la question.
Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Amen, amen. Voilà. Et là, David parle d'un point. La colère sainte qui peut saisir un humain qui aime Dieu, qui croit en Dieu, lorsqu'il voit les autres humains refuser Dieu. C'est d'une ingratitude innommable, incroyable. Qui es-tu? On retrouve ce que David dit là à la croix. À la croix, il y a deux brigands. Un qui se permet de juger Jésus, de dire, mais si tu es Dieu, tu n'as qu'à te sauver et nous sauver. Mais l'autre dit, oh mon ami, nous on se retrouve crucifiés. Est-ce que c'est l'endroit pour manifester de l'orgueil, de la prétention? Est-ce que c'est le bon endroit pour ça? On est crucifié et en plus à cause des péchés qu'on a commis, mais lui n'a rien fait. Vous voyez, bien-aimé, l'orgueil de... Avant, j'étais choqué par l'existence de l'enfer. Mais avec le temps, quand je vois combien Dieu était extraordinaire, combien il est réel, et que les gens voient quand même, mais font semblant, et tu dis, l'enfer est justifié. Rejeter Dieu, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. C'est vraiment de l'hyper mauvaise foi. Et c'est ce que David dit, mais je ne peux pas comprendre. Il prête ton nom pour mentir. L'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Comment vous pouvez vous élever contre votre Créateur? Mais il y a une colère qui naît en nous quand on voit ça. Moi, je vois même des gens parfois entre chrétiens ou bien dans une famille, les gens diminuent en amour pour ceux qui les bloquent dans l'appel de Dieu. Pour quelqu'un qui aime Dieu, l'appel de Dieu, c'est très important. C'est une... Au fait, Dieu est son serviteur et quelqu'un qui est attaché à lui. C'est aussi une relation d'amour. Or, les amours peuvent se battre. Et c'est l'amour le plus fort qui l'emporte. Hein. Il y a des gens qui ont quitté l'homme Anodou, a gâché sa carrière de nageuse à cause de l'amour pour un garçon. Il y a deux amours qui se sont battus. L'amour pour la nage, l'amour pour la célébrité, l'amour pour la gloire qui pouvait l'aider à faire des entraînements et l'amour pour un garçon. Et l'amour pour le garçon a eu le dessus sur l'amour pour sa carrière. Les amours, ça se bat. Parfois, ça va ensemble, parfois, ça peut se battre. Et donc, j'ai vu des chrétiens diminuer en amour pour certaines personnes qui les bloquaient. Mais Dieu nous exhorte à ne pas diminuer en amour. Nous devons toujours, selon notre Seigneur Jésus-Christ, pardonner et aimer ceux qui nous bloquent. Même ceux qui haïssent Dieu, on doit les aimer parce que nous sommes appelés à les sauver. Voilà. Nous passons au psaume 140. Donc avant, on écoute la question. Il n'y a plus...
Il y a des questions, mais je préfère les poser peut-être à la
psaume
fin.
Psaume 140. On finit.
Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face.
Amen, amen. Les justes seront justifiés, tôt ou tard. Et ils seront en face de Dieu, c'est-à-dire que dans la grâce divine. Et les gens verront ça, que là, c'est les justes, ceux qui ont gardé l'alliance avec l'Éternel. Et vous voyez, ce psaume 140 ressemble au psaume 120 qui dit au verset 7, 127, « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » C'est-à-dire qu'on parle des gens méchants, qui ne pense qu'à nuire, et on en a parlé dans la pensée du jour d'aujourd'hui, pour dire que sur terre, nous sommes en combat, dans une guerre intense. Il y a un camp, le monde des ténèbres, avec des démons qui influencent des humains pour nous empêcher d'être sauvés, pour nous empêcher de servir Dieu quand on est déjà sauvés. C'est une guerre de tout temps. Et parfois, les gens se disent, mais c'est dur. Non, si nous nous engageons à 100%, ça ne sera pas dur comme on le sent quand on n'est pas très bien engagé. Il faut être au courant de ça, qu'il y a tout un réseau de méchants que le diable met en travail pour nous empêcher de servir Dieu. C'est une réalité, c'est ce qu'il dit. Délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. C'est ça le lot. C'est ça que le chrétien vit toute sa vie. Jusqu'à la mort, il y aura des méchants qui vont le persécuter. Dans sa famille, à gauche, à droite, le diable va instrumentaliser des gens pour persécuter les vrais de Dieu, pour les empêcher d'être dans la joie, les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc quand c'est comme ça, ben, on est obligé, on n'a que la prière comme recours pour dire Seigneur, voilà, défends-moi, délivre-moi des hommes méchants, délivre-moi. Mais n'entrons pas dans la haine, mais prions que le Seigneur nous délivre. C'est ça le thème de Psaume 140, les hommes droits font face tout le temps aux hommes méchants. Et c'est écrit dans 2 Timothée 3:12, ceux qui servent Jésus-Christ pieusement, ils seront persécutés. C'est une réalité, bien-aimés. Nous sommes en guerre tout le temps, mais c'est qu'on ne voit pas, puisque c'est des gens dans l'invisible, mais ces gens-là dans l'invisible utilisent des gens visibles. Alors ne cédons pas à des petits bobos à gauche, à droite pour entrer dans la colère, dans la tristesse, dans l'abattement. Mais là, on joue le jeu du malin. Soyons toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5:16. Voilà. N'entrons pas dans le jeu du malin. Tout ce qui se passe contre nous par les méchants et parfois des chrétiens non vigilants. On a vu, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voilà. Donc il y a parfois des manques de vigilance qui peuvent faire que le Satan utilise même des vrais. Donc, prenons conscience qu'il y a toute une armée contre nous et dans cela, demandons toujours la délivrance du Seigneur. Il y a des vrais méchants sur terre, c'est une réalité. Parfois, ça choque tellement certains chrétiens qui sont traumatisés, ils sont bloqués. Non, mais les Écritures nous informent qu'il y a des vrais méchants, des gens qui ne veulent jamais la paix, ils veulent toujours des problèmes. C'est ça quoi. Il faut tenir compte de cela. Donc, prions toujours pour que Dieu nous délivre. Oui, donc nous laissons la place aux questions.
Alors, première question, mais il y a des prophéties qui ont glorifié Dieu que certains pasteurs qui ne sont pas dans la vérité ont donné et ça s'est réalisé. Que peut-on penser? Ça vient de Dieu?
Alors, on ne peut que lire Deutéronome 13. Deutéronome 13, 1 à 5, pour déjà aider à recevoir une réponse. Deutéronome 13, 1 à 5, parce que bon, aucun exemple nous est donné dans la question. Peut-être que nous, on peut être au courant de l'affaire et dire ce qui ne va pas dans cette prophétie-là, ou bien c'est que, voilà, en discuter. Mais bon, comme la question est générale, bon, on va donner aussi une réponse générale. Deutéronome 13, 1 à 5.
S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
Voilà, donc ce passage nous dit qu'il peut arriver qu'un faux serviteur donne une prophétie qui s'accomplisse. Bon, on ne nous dit pas que c'est Dieu qui lui a parlé, on nous dit tout simplement que c'est Dieu qui a laissé que ça s'accomplisse, afin de voir si nous, on se laissera piéger par ça, au lieu de suivre les Écritures, parce que ce faux-là, on sait que c'est un faux, puisqu'il nous appelle à aller vers des faux dieux. Voilà. Donc on sait que là, ce n'est pas normal, mais beaucoup, même s'ils voient qu'on les appelle à aller vers les faux dieux, mais à cause d'une prophétie qui s'est réalisée, ils disent, mais non, mais Dieu est avec lui, sinon la prophétie ne se serait pas réalisée. Non, Dieu peut laisser faire. On ne dit pas que ça vient de lui, dans ce texte, mais on nous dit qu'il, ce qu'on est sûr ici, c'est qu'il laisse faire pour voir si on est attaché aux Écritures, au lieu d'être attaché, on est plus attaché aux Écritures qu'à autre chose. Voilà.
Comment on peut expliquer quand même un enfant de Dieu est attaché à Dieu et même il lit la parole, il essaie d'obéir, mais il sent la tristesse dans son cœur?
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore réglé avec Dieu. Voilà, il faut il y a peut-être un pardon, il y a peut-être une acceptation de la volonté de Dieu qui n'est pas encore accomplie, qui n'est pas encore acceptée, qui n'est pas encore faite, pardon. Et il y a quelque chose à régler avec Dieu. Et quand c'est réglé, tout se dégage. Vous savez, nous sommes comme un canal, un tuyau. Et si le tuyau est bouché, ben, la grâce divine, la joie, la paix, ça a du mal à passer. Mais dès que c'est réglé, le problème qu'il y a dans le cœur, la grâce coule à nouveau. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui n'acceptent pas que Dieu leur a pardonné. Ils trouvent qu'ils ont fait trop de bêtises et du coup, ils cherchent, ils courent après. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour plaire à Dieu, pour qu'ils soient acceptés à nouveau? Et ça prend du temps puisque ce n'est pas comme ça qu'on est accepté. On est accepté à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà. Et il y a beaucoup de blocages comme ça. Ça veut dire qu'il y a un blocage qui n'est pas encore réglé.
Est-ce que Jésus et Marie est mère de Jésus? Si oui, ça veut dire que Marie est mère de Dieu.
Ben non.
Car Luc 1, 41 dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?»
Oui, Jésus est un problème. Et c'est pourquoi Dieu même a dit que dans les Écritures de l'Ancien Testament, il sera une pierre d'achoppement. Il est un problème parce qu'il est à la fois Dieu, fils de Dieu, homme. C'est ça le problème. Donc, Marie reçoit Jésus dans son ventre, mais Jésus n'existait pas en tant que Jésus, mais en tant que fils avant de venir dans le ventre de Marie. Il est fils de Dieu depuis l'éternité. Maintenant, quand il a fallu sauver les humains, il a pris un corps d'homme. On a vu ça dans le psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Donc finalement, c'est ça que Jésus a fait. Il a vu que les hommes n'arrivaient plus, c'était fini entre Dieu et les hommes, c'était bloqué, les sacrifices ne plaisaient plus à Dieu. Il a dit, ah, je ne peux pas laisser comme ça. Je prends un corps afin d'être le sacrifice parfait, agréable, qui va réconcilier les humains à mon papa. Voilà, donc il devient Jésus en venant dans Marie, il devient homme en ce moment-là. Donc Marie est mère de Jésus homme, mais il n'est pas mère de Jésus Dieu qui existait avant elle. Dois-je continuer encore ?
Non, c'est, okay. C'est bon.
On va prier alors. Seigneur, nous te remercions pour Jésus, qui est une grâce pour les petits, une solution pour les faibles, mais une complexité pour les intelligents, Seigneur. Aide-nous à être simples pour l'accepter, comme le voleur à la croix. Seigneur, nous te remercions pour ces études bibliques. Le psaume 139 nous dépasse, Seigneur. Combien tu connais nos vies, combien tu les as créées. Tu n'as pas créé juste le corps, mais tu as créé ce que devait faire ce corps-là, le temps que ça devait prendre. Seigneur, c'est extraordinaire. Nous te le disons en face que tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Ta connaissance, tes pensées sont merveilleuses. Et ça nous donne quelle paix, quelle force de se savoir de toi, Seigneur. Nous prions également pour te dire que tu es merveilleux à cause de ta fidélité. Tu es le seul qui, dans l'univers, a fait ses preuves de fidélité, dans ses engagements, dans ses promesses. Parce que non seulement tu es juste, tu es vrai, mais tu as la capacité de les tenir. Sois exalté, magnifié Père éternel. Aide-nous à nous reposer sur ta fidélité et non pas sur notre justice à nous. Et nous prions également, Père, que tu nous délivres des méchants qui sans cesse nous ourdissent des complots pour nous faire tomber. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ton Église universelle et locale. Nous nous attendons à toi pour tout. Au nom de Jésus. Merci encore. Amen. Gloire à Dieu.